mardi matin, c'est le 24 octobre et il est 7h30, le journal. Élodie Largenton, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Après le retrait, la retraite, on s'imagine que les représentants touchent une retraite confortable, mais ce n'est pas le cas. On a fait les calculs et le résultat est surprenant. On voit ça dès le début de ce journal. La Polynésie française devrait être épargnée par les cyclones cette saison. D'après Météo France, le risque est faible. La probabilité d'être touché n'est que de 15%. Le parti Ténati Front National renonce finalement au territorial, principalement pour des raisons financières. Et puis après l'abandon du Mahana Beach, le projet du village tahitien se concrétise. Une option d'aménagement a été choisie hier. Cette option comprend 4 hôtels allant du 3 au 5 étoiles.
Alors, contrairement aux idées reçues, les retraites des représentants sont loin d'être mirobolantes.
La semaine dernière, 4 élus ont annoncé qu'ils quittaient la vie politique. Alors, on s'est demandé ce qu'ils allaient toucher. Et la conclusion, c'est donc que le système de retraite par capitalisation ne leur est pas favorable. Les anciens représentants arrivent difficilement à dégager plus de 100 000 francs par mois après 20 ans de mandat. C'est le cas de l'élu UPLD Chantal Tagliata. Elle explique s'être renseignée auprès de son assurance pour connaître le montant d'une éventuelle pension après 17 ans à l'Assemblée. Et voici le résultat.
Il s'est avéré que la retraite que je devais percevoir était de l'ordre d'une cinquantaine de milliers de francs, montant que je percevrais trimestriellement. Quelle a été votre réaction? Un peu dubitatif parce que ça me remet en question toutes les fausses idées reçues que la population ou les gens ont des élus à l'Assemblée. Et je peux vous dire que je connais des élus conseillers territoriaux à l'époque qui ont fait 30 ans de mandature et aujourd'hui, je suis désolée, ils ont une activité annexe à côté pour pouvoir justement compléter la retraite qu'ils ont en tant qu'élu.
Alors, je vois. Alors, Élodie, pendant le journal, je vais passer en courant dans le couloir, revenir au micro. Qu'est-ce qui se passe?
On en était à l'ancien élu Etavana de Rangiroa, Teina Mareura, qui a effectué 6 mandats à l'Assemblée. Au cours de ses 22 années de travail, il a cumulé un peu plus de 30 millions de francs de cotisations à répartir sur ses prochaines années, soit 125 000 francs par mois sur 20 ans ou bien 83 000 francs par mois sur 30 ans.
On économise pendant 5 ans et lorsqu'arrive la fin de ton mandat, tu en retires pour pouvoir être encore sur la liste et pour pouvoir continuer à faire de la politique. Et lorsque tu n'es plus élu à l'Assemblée comme moi, on fait le compte de ce qu'il te reste à l'assurance et ensuite tu vois combien est-ce que tu veux toucher par mois, 100 000 ou 200 000 francs. Et si tu épuises vite tes économies, eh bien tu n'auras plus rien. Il ne te reste plus qu'à faire la demande pour bénéficier de l'allocation vieillesse. De toutes les années où j'ai cotisé à l'assurance, j'en suis sorti avec un peu plus de 30 millions et c'est ce dont je bénéficie et ce que je dois gérer depuis que je ne suis plus à l'Assemblée.
Des propos recueillis par Vaïté Ourari Pambrin. Précisons que l'allocation de solidarité aux personnes âgées va de 80 000 à 140 000 francs.
La politique avec aussi le Ténati Front National qui renonce au territorial.
Un changement de posture par rapport à l'ambition affichée par le parti pendant les campagnes présidentielles et législatives. Principale raison invoquée pour expliquer ce changement de position, le coût du financement d'une participation territoriale. Le Ténati Front National craint aussi de ne pas pouvoir réunir suffisamment de candidats maîtrisant parfaitement la langue tahitienne. Rappelons que le Front National et sa candidate Marine Le Pen avaient réalisé un score historique lors de la présidentielle avec plus de 37 000 voix au second tour. Un résultat largement favorisé par le soutien du Tauera. Lors des législatives, le Ténati Front National avait connu nettement moins de succès, totalisant seulement un millier de voix au premier tour.
Le Fénois ne devrait pas être sur la route des cyclones lors de la prochaine saison chaude qui commence dans quelques jours.
D'après Météo France, le risque de voir un phénomène évoluer en Polynésie française, qu'il s'agisse d'un cyclone ou d'une dépression, n'est que de 25%. Et si l'on s'intéresse uniquement au risque cyclonique, le pourcentage tombe à 15%, précise Victoire Laurent de Météo France.
Alors 15% de risque cyclonique, c'est un risque faible. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un risque faible pour la Polynésie française de voir évoluer un phénomène sur toute la Polynésie française. Or, ce risque faible, il va surtout concerner les Gambiers et les Australes, hein, le sud-ouest des Australes. Donc, on va dire que c'est un risque en termes d'activité cyclonique qui est faible, qui rassure un peu, hein, notamment sur les Marquises, la société, mais il faut quand même rester vigilant pour tous les autres phénomènes.
Il faut faire attention notamment aux intempéries qui représentent toujours un risque, comme on l'a vu en début d'année. Le Haut Commissariat a d'ailleurs voulu tirer les leçons de ce qu'il s'est passé, comme le rapporte Frédéric Poiseau, le directeur de cabinet du Haut Commissaire. Des formations ont été délivrées au sein du PC de crise avec la direction de la protection civile et des reconnaissances aériennes sont effectuées pour visualiser les zones sensibles.
On a mis en place des opérations d'anticipation, dites d'anticipation des phénomènes, plusieurs, hein, donc des reconnaissances avec l'appui des militaires de la 35F, donc des hélicoptères, où on s'est attaché sur l'ensemble des communes qui présentent des points de fragilité à faire des reconnaissances pour pouvoir avoir une vision assez claire et aérienne des zones dites sensibles. Donc ça, c'est un travail qu'on partage évidemment avec les communes et puis le pays. Donc on a refait des relevés photographiques, on a établi des cartes géoréférencées avec des relevés GPS qui nous permettent de voir qu'effectivement, sur certaines embouchures, on peut avoir quelques embâcles, des arbres à élaguer, des choses comme ça, pour éviter d'avoir des sorties de lit comme on a pu connaître en début d'année.
Frédéric Poiseau invite tous les services, mais aussi la population à se préparer. On ne gagne pas une guerre comme celle-là en étant seul, souligne-t-il. Des brochures distribuées par les services de l'État rappellent les gestes qui sauvent, élaguer les arbres, avoir une trousse à pharmacie chez soi ou encore se tenir informé.
Oubliez le Mahana Beach et ses 3000 chambres, place au village tahitien et à ses 1300 clés.
Le projet du gouvernement se concrétise. Une option d'aménagement a été choisie hier par le comité de pilotage du projet. Cette option comprend 4 hôtels allant du 3 au 5 étoiles, mais pas seulement. Les précisions du vice-président en charge des grands projets d'investissement, Tevar Ofrich.
Alors, telle que l'option a été retenue, il y a donc 4 zones hôtelières qui sont définies, une place centrale qui va être un peu le lieu de vie d'animation du village, un centre culturel avec explication de la vocation culturelle historique du site, puisqu'il y a à la fois l'envol des âmes, mais aussi ses sources qui font la renommée de ce site, donc conférence, congrès et salle de spectacle, et puis 2 zones de condominium et une marina. Voilà l'ensemble du programme qui est prévu sur le village tahitien. Oui, certains raillaient la notion de village, c'est un grand village quand même.
Un cahier des charges peut maintenant être rédigé en vue de lancer les appels à projets. Le pays espère démarrer les aménagements dès le premier semestre 2018 avec des investisseurs locaux et étrangers qui se sont déjà manifestés.
On a déjà plusieurs types d'investisseurs qui se positionnent. Les locaux, ce qui est un bon signe, c'est-à-dire ce qui n'était pas le cas pour le Mahana Beach, pour des questions aussi de taille certainement, mais en tout cas, l'approche par l'eau permet aux locaux de se positionner. Il y a des investisseurs maoris qui se sont manifestés. Nous savons aussi que les Chinois, sans citer de groupes particuliers, mais différents groupes chinois se positionneraient aussi. Et puis d'autres détenteurs déjà d'hôtels en Polynésie, donc je ne veux pas citer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a effectivement de la demande aujourd'hui à ce stade du projet. Donc on est assez confiant, on pense que nous aurons différents candidats, ce qui nous permettra, j'espère, de choisir les meilleurs projets.
Le vice-président Tevar Ofrich au micro de Valentine Bluet. En attendant le début des travaux, le gouvernement a voulu rendre le site de l'ancien Sofitel accessible à tous. Un parc a été inauguré hier.
Le tourisme repart à la hausse en juin.
La fréquentation a progressé de 5% par rapport à l'année dernière, selon les chiffres de l'Institut de la Statistique. Les Nord-Américains et les Français représentent quasiment les 2/3 des touristes qui viennent en Polynésie. Il faut noter aussi de bons résultats du côté du marché néo-zélandais. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 4300 à s'être rendus au Fénois. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans.
Et puis, Christophe Maé semble avoir trouvé le bonheur en Polynésie.
L'artiste est arrivé il y a quelques jours à Tahiti en vue de son concert prévu ce vendredi, Place Toata. Et il est déjà sous le charme de l'île et surtout de ses habitants. Christophe Maé se dit touché par les rencontres qu'il a faites, notamment en ville samedi soir lors de la Pulumu Party.
Ben, je parle un peu avec plein de gens, on est sortis, on est allé se promener, je sens en tous les cas des gens spontanés, vrais, hyper chaleureux, voilà, qui cachent pas leurs sentiments quoi. Hey, moi je t'aime, je t'aime, je t'écoute depuis 10 ans. Et puis voilà, c'est hyper touchant quoi, des gens vrais, très chaleureux, voilà, c'est moi je suis ravi d'être ici, ça fait quelques années que j'ai envie d'y venir, mais j'ai 2 petits gars, je vous le disais tout à l'heure, ils étaient un peu trop petits pour supporter l'avion, le vol et tout, c'est très très loin quand même. Et puis là, voilà, c'était le bon moment, quoi. Bon timing, donc c'est cool.
Voilà, de quoi rendre son concert encore plus spécial. Rappelons que c'est la dernière date de sa tournée, l'Attrape-Rêve Tour. C'est aussi un anniversaire, les 10 ans de carrière de Christophe Maé. La fête s'annonce donc particulièrement belle ce vendredi soir à Toata. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio Infareuté et sur la billetterie en ligne ticket-pacifique.pf.